Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot. Bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture en direct jusqu'à 20h30. Ce soir, nous abordons un sujet complexe, la question de la pauvreté dans ses rapports au numérique. À l'intersection du social et de l'accès aux technologies, on sous-estime souvent les difficultés que rencontrent les sans domicile fixe et les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté lorsqu'elles doivent, par exemple, faire des démarches administratives vers Pôle emploi ou la sécurité sociale et sont soit dépourvues d'ordinateur, soit de connexion internet, de smartphone ou même lorsqu'elles sont, selon la formule consacrée, en illettrisme numérique. C'est de cela notamment et de nombreuses autres choses autour de ces questions de pauvreté et de numérique dont nous parlons ce soir avec mes deux invités. Côté gouvernement, Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Et côté association, Jean Dédier, fondateur et directeur d'Emmaüs Connect. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias. On parle d'Israël et d'une loi controversée sur la loyauté culturelle. Et puis, en seconde partie d'émission, à 20h, l'invité innovation ce soir avec vous, Zoé Sfez.
Il s'appelle Mathias Destal et c'est l'un des cofondateurs de Disclose qui veut être le premier média d'investigation à but non lucratif. Il a été lancé la début novembre par des journalistes indépendants. Le but de ce média, c'est de mener des enquêtes au long cours financées par des mécènes, par la philanthropie, des fondations, des particuliers, des fonds publics, comme le font déjà aux États-Unis notamment, mais aussi en Europe, d'autres médias avec beaucoup de succès. Le principe, se dire eh bien, qu'on aura enfin le temps pour faire de l'enquête, ce qu'on a de moins en moins dans les médias.
20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons de Black Friday qui aura lieu ce vendredi et qui marque une nouvelle date clé dans le shopping, largement popularisé par Amazon. Nous décrypterons ce modèle ambigu avec Elisa Brown du Figaro et Nicolas Prinsen, fondateur de la start-up Gloz. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power. Ce soir, cette émission est réalisée par Diane Absangaré avec en régie Morgane Danen. Elle a été préparée par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux Clara Brelot. Car vous pouvez également suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power ainsi que sur Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn, en podcast et sur France Culture en direct donc jusqu'à 20h30.
Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et des législatures décidées avant le temps, qu'on ne marie pas les filles avec leur papa.
Je commence cette émission comme chaque semaine par un clin d'œil culturel. Il s'adresse ce soir aux enfants, mais aussi aux adultes qui ont conservé un cœur d'enfant comme vous, Zoé Sfez.
Oh oui.
Peau d'âne à la féerie musicale qui se joue à Paris depuis cette semaine. Le conte de Charles Perrault est adapté en comédie musicale à partir du film de Jacques Demy. Avec bien sûr la musique de Michel Legrand, le spectacle arrive au théâtre de Marigny qui réouvre à cette occasion après de longs travaux, 5 ans je crois. C'est évidemment splendide, magique, avec deux voix féminines. Peau d'âne est la fée à couper le souffle, bien que le reste des chanteurs soit moins convaincant. Le décor tout en arbre est somptueux, les costumes justement féeriques. Peau d'âne retrouve ainsi une nouvelle jeunesse, une fraîcheur, ce qui est aussi d'ailleurs du bon marketing avant les fêtes de Noël. On peut même dire, sans jeu de mots, que le spectacle fait entièrement peau neuve. Ça vous plaît, Zoé Sfez?
Alors, ça me plaît, même si je dois dire qu'il faut quand même revoir le film de Jacques Demy, qui est, il faut le redire encore une fois, comme tous les films de Jacques Demy, un immense chef-d'œuvre. Donc, je ne sais pas si j'irai voir ce spectacle. La situation mérite attention, comme dirait la fée des Lilas. Mais en tout cas, voilà, je vous invite surtout à aller revoir ce film qui n'a pas pris une ride, qui n'était pas vieux à l'époque et qui ne sera jamais. Et si vous vous doutez d'en avoir envie parce que vous êtes adulte et que vous pensez que c'est un film pour enfants, détrompez-vous et allez voir. D'ailleurs, je lui rends hommage ce soir, la vidéo de Luc Lagier sur la chaîne de Arte YouTube qui s'appelle Blow Up, qui est par ailleurs une chaîne pépite qui a fait aujourd'hui, qui vous donne envie de revoir Peau d'âne en 6 petites minutes. Vous serez nécessairement convaincu si ce n'est pas moi qui l'ai déjà fait.
Très belle vidéo, en effet. Peau d'âne au Théâtre Marigny à Paris, c'est jusqu'au 17 février. L'actualité, comme chaque semaine, actualité de la politique culturelle, des industries créatives, des médias. Au début de cette émission, on parle soft power ce soir, Zoé Sfez, avec le débat très vif en Israël sur un projet de loi controversé sur la loyauté culturelle, déjà voté par le gouvernement et qui suscite de vives réactions.
Ce projet de loi, il est proposé par la très contestée, hein, encore et toujours, ministre de la Culture israélienne, Miri Regev, qui est issue du Likoud. Il est soutenu, ce projet de loi, par le ministre des Finances. Il a été adopté en première lecture à la Knesset, l'Assemblée en Israël, par 55 députés pour et 44 contre. Débat très, très houleux. Il faut encore deux lectures pour que ce texte devienne loi, ce qui interviendra probablement assez sûrement dans les semaines à venir. Et dans une tribune parue ce lundi dans Le Monde, plusieurs dizaines d'artistes, de cinéastes français, comme par exemple Agnès Jaoui ou Jacques Audiard, mais aussi évidemment israéliens, dénoncent ce texte et les dangers qu'il comporte. Ils appellent aussi la France et le cinéma français à réagir. Parmi eux, il y a entre autres Avi Moghrabi, mais aussi le réalisateur Nadav Lapid, auteur de deux films qui ont pas mal marqué, Le policier et L'institutrice. Il termine en ce moment son dernier long métrage qui se déroule à Paris, Synonyme, qui sortira dans les mois qui viennent. Je l'ai rencontré, je lui ai demandé pourquoi selon lui, ce texte est si dangereux et pourquoi il a signé cette pétition.
Pour susciter l'attention et puis pour exprimer l'opposition et le rejet total d'une nouvelle loi qui, en gros, est une loi qui fixe 5 principes qui oblige chaque œuvre artistique de tenir à ces 5 principes et donc, en gros, de montrer de la fidélité envers l'État en disant qu'une œuvre artistique qui va transgresser ces codes. C'est interdit de le financer en Israël et l'institution qui l'a financé sera punie, il pourrait être fermé par le ministère de la Culture. En plus, évidemment, c'est lui qui décidera si l'œuvre artistique, oui ou non, a tenu à ses principes, parce que ce n'est pas de la mathématique, évidemment. Enfin, le ministère de la Culture, c'est eux qui ont fixé la loi, c'est eux qui vont prendre la décision et c'est eux qui vont aussi fixer les punitions. En gros, et pas seulement en gros, il s'agit clairement de la fin totale et absolue de la liberté de l'expression artistique en Israël. Et il faut dire que cette loi visait surtout et au-delà de tout au cinéma.
C'est quoi ces fameux 5 principes? C'est-à-dire quels sont les domaines qui sont concrètement visés par ce texte?
En général, il s'agit de ne pas mettre en danger ou mettre en doute l'existence d'Israël en tant qu'un pays juif et démocratique. C'est-à-dire à partir de ce moment, si on dit non mais peut-être il faut penser sur un autre modèle, s'il y a une scène qui... Et qu'est-ce que ça veut dire une scène qui met en doute l'existence d'un pays comme un pays juif et démocratique? Moi, je pense que, par exemple, ce principe, on l'aurait pu utiliser pour censurer tous mes films. Qu'il y a ça, il y a encourager des actes violents contre les pays qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Et ici aussi, évidemment, est-ce qu'une manifestation, c'est un acte légitime ou c'est un acte violent? Est-ce que les manifs à Gaza sont des actes de violence ou des actes de protestation légitime ou les deux? Est-ce qu'on peut parler de ça? Non, on ne peut plus parler de ça.
Justement, quelles pourraient être les conséquences de cette loi pour vous? Il y a le risque de la censure, il y a le risque de savoir si vous allez pouvoir travailler et il y a le risque de l'autocensure aussi, comme à chaque fois.
Pendant les années, deux œuvres très, 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 très critiques envers l'État étaient fabriquées en Israël. Ça fait déjà quelques temps qu'on peut très bien discerner l'autocensure. L'autocensure, parce qu'on sait très bien qu'il y a des sujets qui sont mal pris. Donc ça, c'est une chose. À mon avis, ça va c'est beaucoup renforcer. Après, les dangers sont immédiats. Moi, là, je suis en train de terminer l'écriture d'un scénario. J'ai du mal à croire qu'un tel scénario pourrait convenir à cette code. Plus que ça, à partir de ce moment, évidemment, il y aura des qui peut-être existent, mais il y aura des listes noires comme ça. Et à mon avis, ça, c'est seulement le début.
Vous en parliez à l'instant, il y a eu cette période assez forte et assez flamboyante du cinéma israélien qui, comme vous l'avez dit, a eu une grande liberté de ton. Et à cette même époque, il y a eu de nombreux appels, notamment du monde anglo-saxon, à boycotter les produits culturels israéliens. Ce boycott, vous ne l'avez pas soutenu, vous ne pensiez pas qu'il était pertinent. Est-ce que ce boycott aujourd'hui, pour vous, il est légitime?
Moi, j'ai des réflexions complexes et mélangées par rapport au boycott. Je suis pas forcément opposé à l'idée. Je trouve juste qu'il y a quelque chose de très très facile à utiliser cette menace du boycott que par rapport aux universitaires et aux artistes. Parce que c'est exactement les domaines qui auront aucune influence sur la politique israélienne, qui vont pas aider en celle palestinien, qui vont pas aider en celle juif israélien, qui vont pas aider en celle opposant du régime, qui vont tout au contraire, donner au gouvernement israélien la preuve que finalement ils ont raison, peu importe si vous êtes pour la cause ou contre la cause, vous êtes sous les menaces du boycott, puisque le monde est finalement antisémite, etc., etc., et toutes sortes d'autres bêtises. Après, moi, je crois que cette loi change l'état des choses. La France participait au financement de beaucoup, beaucoup de films israéliens, y compris les miens. Et je pense qu'il faut se poser la question, que le CNC, que les institutions françaises doivent se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire avoir un accord de coproduction avec un pays où la liberté artistique est bafouée? Et en même temps, je pense que ces producteurs, ces institutions françaises doivent aussi être sensibles à l'état délicat et fragile dans lequel se trouvent à ce moment des cinéastes israéliens qui prennent les risques et qui se positionnent contre cette loi et qui se mettent en danger.
Nadav Lapid, donc réalisateur israélien, qui termine le montage de son dernier film à Paris dans cette tribune donc, qui est parue lundi. On suivra évidemment les évolutions de ce texte qui doit encore être validé deux fois par la Knesset en Israël, ce texte sur la loyauté culturelle envers le pays.
Dans un instant, le sujet de Soft Power, la pauvreté et le numérique. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine par une actualité musicale, voici Shadé, c'est un nouveau single, The Big Unknown, qui confirme la lente réémergence de la chanteuse british-nigérienne, star des années 80. Beau morceau dans la lignée des rythmes mid-jazz et mi-R&B de Shadé. Après la drogue et le chagrin, elle tente de s'en sortir. Il n'y a pas de moyen, pas de solution pour mesurer ma tristesse, ma douleur, chante Shadé, qui se bat pour survivre, pour renaître et ne peut retenir une larme. That only darkness really knows. I'm hoping for a humble seed to grow. Shadé sur France Culture, 19h13.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
On parle pauvreté numérique ce soir dans Soft Power. Je reçois Jean Dédier, fondateur et directeur d'Emmaüs Connect, qu'on retrouve dans un instant, et Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, responsable du gouvernement, responsable associatif. Olivier Noblecourt, bonsoir.
Bonsoir.
Rebonsoir. Alors vous êtes grenoblois, diplômé de Sciences Po Grenoble. Vous avez été assistant parlementaire de Michel Destot, directeur de cabinet par la suite du maire de Grenoble, Michel Destot, adjoint au maire également. Par la suite, on vous retrouve à l'Éducation nationale, comme conseiller politique de Najat Vallaud-Belkacem lorsqu'elle était ministre de l'Éducation nationale, directeur de cabinet de la ministre un peu après. Et sous Emmanuel Macron, c'est ça, vous devenez délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, pour le dire en un mot, monsieur. Pauvreté du gouvernement. Sur ce parcours,
simplement dire que c'est un parcours qui a une cohérence et une constante, c'est l'engagement social et c'est l'engagement à partir des territoires. Moi j'ai appris et blanchi sous le harnais sur une terre qui a beaucoup compté dans la construction des politiques de développement social, à partir des besoins des territoires, à partir des parcours des personnes et à travers des responsabilités à la fois techniques, opérationnelles et électives que j'ai pu avoir durant près de 20 ans sur Grenoble. J'ai pu, je crois, éprouver différentes facettes de l'action sociale. Après, j'ai depuis maintenant 5 ans un travail dans l'exercice de l'État.
En cabinet ministériel, etc.,
voilà,
à Paris. Ouais.
Au niveau des décisions plutôt nationales et ministérielles, dont je connais l'importance, mais dont je ne méconnais pas les limites. Et tout l'enjeu qui est le mien maintenant, ça fait un an que je suis en fonction, c'est de passer d'une phase d'élaboration, d'une phase de concertation de la stratégie nationale que le président de la République a annoncée en septembre, à une mise en œuvre pleinement opérationnelle. C'est souvent ce qui a été manqué ces dernières années. On a souvent le sentiment de plans qui se succèdent les uns après les autres, de belles annonces plus ou moins bien vendues. Et puis après, le quotidien reste toujours.
On va parler de ce plan dans un instant.
On est là pour changer ça.
Le social Et de droite ou de gauche?
Écoutez, le social est d'abord défend l'intérêt des plus fragiles et il est porté historiquement par une culture plutôt de gauche, mais j'ai rencontré beaucoup d'élus de droite qui étaient eux-mêmes très investis. Donc moi, je ne suis pas dans une grille de lecture partisane et politique. Je n'y suis plus depuis plus d'un an maintenant que je suis entré dans ces fonctions-là qui exigent justement de sortir des champs déjà labourés, qu'il s'agisse du champ partisan comme du champ des politiques publiques. On est là pour inventer de nouvelles solutions.
Vous êtes une sorte de Martin Hirsch de droite, de gauche?
Ce serait prétentieux et difficile pour moi de l'assumer parce que Martin est un ami de longue date. J'ai appris beaucoup à ses côtés, beaucoup travaillé avec lui. Il fait partie de ceux qui ont inspiré et qui m'ont permis de me construire une réflexion sur la lutte contre la pauvreté.
Cette réflexion, justement, c'est une question un peu personnelle, mais cette réflexion, quels sont les auteurs, les livres qui ont façonné votre vision du social et de la pauvreté en particulier?
Au-delà des grands romans classiques, romantisme réaliste du 20e, ce qui m'a vraiment structuré, c'est la lecture d'Éric Morin sur la fin des années 90, début des années 2000, le ghetto français.
La République des idées.
Absolument. Nous étions ensemble, cher Frédéric Martel, dans ces aventures à la fois grenobloises et nationales intellectuelles qui ont donné lieu derrière à la création de la collection La République des idées. Les livres d'Éric Morin ont mis en exergue la façon dont, d'une certaine manière aussi, la classe moyenne se détachait des modèles de redistribution classique, comment la défiance prenait peu à peu le pas. Je voudrais citer les travaux d'Esther Duflo sur l'expérimentation sociale. Avec Martin Hirsch et d'autres, nous avons beaucoup travaillé ce champ de l'expérimentation. Puis un dernier auteur peut-être, c'est Alain Ehrenberg, parce qu'il y a une dimension psychosociale dans le rapport à la pauvreté. Il y a une façon dont les représentations pèsent sur les politiques publiques, dont certaines constructions, purement au départ idéologiques, comme la Sistana, finissent par prendre une place considérable dans le débat public, comment les représentations deviennent quelque part des faits. Alain Ehrenberg a décrit ça merveilleusement, notamment dans La Société du Malaise, je crois, c'était il y a quelques années.
Piketty,
bien sûr, parce que c'est le pape des politiques de redistribution, donc je l'ai lu et je le lis toujours avec beaucoup d'intérêt. Je travaille avec beaucoup de scientifiques qui ont bossé avec Thomas Piketty, Julien Grenet notamment, sur la mixité sociale. Il a fait des études de référence sur les collèges parisiens. Mais c'est vrai que ce que vous dites à travers vos questions sur ces lectures, elles interrogent la relation entre les politiques publiques et leur capacité à les irriguer de la pensée scientifique. Et c'est quelque chose qui est aussi une constante du parcours que j'ai en commun avec beaucoup d'autres. Aucune prétention là-dessus à l'exemplarité ou à la vérité. Mais ça fait 20 ans que je travaille avec des intellectuels de la question sociale. Et je crois que la stratégie que nous avons portée ces derniers mois, elle est très directement issue des réflexions qui étaient celles que nous avions en commun avec une dizaine d'années, avec un grand nombre de ces nouveaux penseurs de la question sociale qui étaient réunis sous la bannière de la République des idées.
On reviendra dans un instant sur le sujet de cette émission, à savoir le numérique, mais un mot quand même sur le plan pauvreté qui a été annoncé après avoir été reporté à cause de la Coupe du Monde. Le plan vient d'être présenté cet automne. Non, mais il avait été reporté avant l'été.
Il a été
rendu public en septembre, il y a quelques semaines. Il met l'accent notamment sur la jeunesse, sur l'enfance et la petite enfance, avec des moyens significatifs notamment mis sur les crèches. Annonce originale du revenu universel d'activité, fusionnant plusieurs minima sociaux, ce qui peut poser des questions. Lutter d'abord, finalement, est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Lutter au fond d'abord sur les inégalités du destin, pour prendre un mot d'ailleurs, je crois, du président de la République, moins peut-être sur celle de la maturité, de l'âge adulte, des retraités?
On peut le présenter comme cela dans sa première partie, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on veut d'abord rompre avec une forme d'impuissance publique sur 2-3 décennies de politique de lutte contre la pauvreté. On a échoué sur une grande caractéristique de notre modèle social, qui est le déterminisme social, ce fameux ascenseur social que chacun décrit en panne depuis longtemps. Ces études PISA dans le champ éducatif qui montrent que nous sommes le pays où l'origine, la naissance, pèse le plus sur le destin des personnes.
Alors même qu'on a un système qui est très plus redistributif, bien financé.
Absolument.
Et public.
Absolument, il est plus redistributif, il est bien financé, et pour autant nous restons un pays donc de statut, un pays où on ne sort pas finalement de sa condition de naissance et où la promesse républicaine d'égalité méritocratique est bafouée dans le quotidien d'un très grand nombre de nos concitoyens. Donc le premier enjeu pour nous, c'est de mettre en effet le paquet sur les dépenses sociales qui permettent aux individus de se construire une véritable maîtrise de leur projet de vie. Je dis souvent qu'on ne traite plus les questions de pauvreté comme il y a quelques décennies ou même il y a 20 ans. L'enjeu, c'est pas seulement de permettre la survie de ce qu'on appelait encore dans le code de l'action sociale il y a quelques décennies les indigents. L'enjeu, c'est l'égalité dans la capacité à maîtriser nos vies, donc à faire en sorte que les personnes en situation de pauvreté soient des citoyens comme chacun, et que cette fragilité sociale d'une part soit temporaire et que d'autre part elle ne conduise pas à une forme d'infantilisation citoyenne où être pauvre finalement c'est que d'autres décident pour nous de notre vie. Ce que nous disent beaucoup de paroles des personnes elles-mêmes concernées dans la définition de la pauvreté, je trouve que c'est une des plus belles. On est pauvre aujourd'hui en France quand on a le sentiment que c'est les autres qui décident. Quand on a le sentiment qu'en permanence on est jugé, qu'on doit mériter son aide. Et c'est de cela dont nous voulons sortir. Le deuxième élément, c'est que nous sommes une société aujourd'hui, je le disais, de statut, mais une société d'inertie sociale, pas seulement à la naissance, mais tout le long. On peut tomber, chacun d'entre nous peut tomber, et on connaît les parcours. Perte d'un emploi, rupture familiale, maladie, un accident de la vie, aucun de nous n'est à l'abri. Mais aujourd'hui, on ne remonte pas, d'une certaine manière, sur le chemin de la vie facilement. On ne revient pas vers le marché du travail, parce que c'est un marché du travail qui est peu inclusif, et parce que les politiques d'accompagnement ont été atrophiées dans notre pays. Pour prendre un seul chiffre, lorsque Michel Rocard crée le RMI en 1988, il impose aux collectivités et à l'État, des dépenses d'insertion qui représentent 20% du montant des allocations sur le RMI. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 7%. 670 millions de dépenses d'insertion pour 11 milliards de prestations. Nous n'accompagnons plus les personnes.
Donc le R marché, le M plus ou moins, le I pas du tout.
Absolument, c'était l'enjeu d'ailleurs du A du RSA, l'activité, ramener les personnes vers l'activité. Et ces politiques-là, pour des raisons que je ne juge pas, qui sont liées en effet aux contraintes de financement des politiques publiques, qui sont liées à des collectivités qui ont été pressurisées depuis une dizaine d'années, à l'explosion de la dépense d'allocation depuis la crise de 2008, le RSA a augmenté de plus de 80%. Mais toujours est-il qu'on est dans une situation insupportable où de plus en plus de personnes sont conduite à une forme d'isolement social qui se double d'une précarité monétaire et où notre société culpabilise de plus en plus ces personnes de ne pas arriver à s'en sortir. On a une forme de transfert de la responsabilité, une forme de changement de paradigme. Nous étions une société de responsabilité collective face à la pauvreté. Nous sommes devenus, pour une part en tout cas, une société de responsabilité individuelle. Ce qu'a souhaité le président de la République, c'est que nous redevenions une société tout court, c'est-à-dire une société de responsabilité collective.
Est-ce qu'on ne peut pas faire une critique un peu d'ensemble, à savoir les mesures originales annoncé, je pense notamment à l'obligation de formation jusqu'à 18 ans, on peut parler de l'AME ou d'autres, est-ce qu'elles ne sont pas contradictoires avec le reste de la politique gouvernementale? Et si on prend un seul exemple, j'ai regardé un peu de près ce dossier, l'AME, c'est quelque chose par exemple qui est tellement compliqué pour quelqu'un déjà d'à peu près normal. Il faut aujourd'hui, en tout cas c'est les cas que j'ai pu suivre, près de 9 mois en réalité pour obtenir l'AME, tellement que chaque lettre, il faut un mois à peu près pour qu'on vous réponde, et au bout d'un mois on vous redemande un papier qui n'était pas demandé initialement, etc. Et donc au bout de 9 mois vous avez l'AME, c'est quand vous l'avez, et comme vous l'avez demandé initialement par exemple au mois d'avril, on vous dit il vous reste plus 4 mois puisque il y a déjà 9 mois que votre dossier est traité. Comment se fait-il alors que l'AME, comme vous le savez Olivier Noblecourt, c'est pas quelque chose qui est fait en soi pour aider tellement les sans-papiers par exemple, c'est d'abord pour nous aider nous, puisque ça protège notamment des maladies, etc. Comment se fait-il que ce soit si compliqué, que ça marche si mal?
Alors si vous me permettez, il y a deux questions dans votre question. Il y a une première question
générale et une question particulière.
C'est l'enjeu de l'AME elle-même, et je crois que c'est l'honneur de ce gouvernement que de défendre l'AME face aux assauts, dont cette aide est l'objet depuis de nombreuses années, de l'extrême droite d'abord et malheureusement maintenant d'une partie de la droite républicaine ou dite républicaine. Deuxième sujet, c'est l'accès à l'AME. Et vous avez raison, et vous l'avez connu très directement, cet accès-là, il peut être parfois rendu difficile par l'absurdité de notre système d'accès aux droits. Et on va en reparler parce que ça a à voir avec notre enjeu numérique, mais il y a des passes, des permanences d'accès aux soins qui fonctionnent bien sur l'AME. Et puis il y a d'autres mesures dans cette stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui simplifie de manière drastique les droits. On en a peu parlé, mais le fait qu'on supprime l'aide à la complémentaire santé pour la fusionner dans la complémentaire, dans la CMU complémentaire, c'est 1,5 million de nos concitoyens qui vont avoir accès, ils sont tous sous le seuil de pauvreté, à un panier de soins de meilleure qualité et moins cher. Il y a 3 millions de personnes, nous dit le fonds CMU, non recourant aux différentes formes de la couverture maladie universelle. Je peux vous garantir que pour des millions de ménages, c'est un progrès social considérable. Nous l'avions espéré il y a 5 ans. Il est fait.
Sur la question des mesures originales par rapport contradictoires avec le reste de la politique gouvernementale?
Non, mais enfin, moi, je suis délégué interministériel. Mon enjeu, c'est de mettre en cohérence des politiques. On pourra toujours trouver, je pense que vous pouvez faire référence par exemple.
Sur l'éducation ou sur tel autre.
Oui, ou suppression de politique postes, du logement. Ou... On me cite souvent le cas de l'appel. Il y a des réformes de fond qui doivent être entreprises. C'est le cas sur la politique du logement, sur ce qui est fait actuellement, sur lesquelles nous amenons un certain nombre d'inflexions ou de compléments. Par exemple, sur l'accès à l'hébergement et au logement. Nous amenons 125 millions d'euros pour adapter l'offre d'hébergement et d'accès au logement à une évolution majeure du public. C'est que maintenant, nous avons des familles avec enfants qui sont dans l'hébergement d'urgence, alors que les capacités et les dispositifs ont été pensés essentiellement pour des hommes seuls. Donc moi, j'agis dans un cadre, et je crois que les associations ont salué la cohérence de l'ensemble du plan lui-même. On est face à une vraie stratégie de politique publique pour les prochaines années. Après, évidemment, c'est mon rôle de continuer à persuader et à faire en sorte que cette dynamique d'ensemble ne trouve pas de ci et de là, en effet, des contradictions.
Olivier Noblecourt est délégué interministériel à la prévention et la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. L'invité de Soft Power ce soir en direct sur France Culture, il est 19h25. On en vient au sujet central de cette émission, le numérique et la pauvreté. Alors dans ce dossier, c'est un sujet d'une certaine manière singulier par rapport à la question globale de la pauvreté. On aimerait s'y consacrer maintenant, à la fois pour peut-être préciser non seulement les équations, et on va le faire avec Jean Didier dans un instant, les équations en jeu, les stratégies. Comment est-ce que vous voyez une approche générale du numérique par rapport à la pauvreté qui peut concerner à la fois des personnes en dessous du seuil de pauvreté, des migrants et des sans-papiers, mais aussi des gens en illettrisme numérique qui, eux, peuvent être plus, un tout petit peu plus à l'aise financièrement?
D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, l'essentiel, c'est qu'on fasse en sorte que les plus fragiles ne soient pas une fois encore les perdants des grandes transitions de notre société. On a beaucoup parlé ce week-end de la
transition
écologique.
Une sorte de double peine d'une certaine manière.
Oui, mais qui est un grand classique. À chaque fois que la société porte une transition majeure, ce sont les plus fragiles qui en sont victimes. Et sur cette révolution numérique, pour utiliser un grand mot, on sait qu'aujourd'hui un grand nombre de nos concitoyens, les chiffres oscillent entre 15 et 20% sur ce qu'on appelle l'électronisme, hein, donc la difficulté en effet à agir dans l'espace numérique. Donc on est sur un enjeu absolument centrale, et donc ça doit mobiliser d'être un cœur des politiques publiques, pas seulement de la stratégie de lutte contre la pauvreté, mais de l'ensemble de ces politiques qui concourent à l'accès aux services publics de nos concitoyens. Donc il y a en effet des actions différentes à mener en fonction des typologies de publics, plus ou moins éloignées. Je ne doute pas que Jean Dédier va en parler dans quelques instants. Moi, je voudrais juste en une phrase dire qu'il y a trois enjeux qui nous mobilisent très fortement. C'est que vous savez, on évoque toujours ces transitions en risques et opportunités. Alors c'est un petit peu une facilité de réflexion. Les risques, on les connaît. Les risques, c'est une sorte de trappe à pauvreté supplémentaire pour les plus fragiles, une sorte de trappe à éloignement encore un peu plus des droits et des services sociaux pour les plus fragiles. Et malheureusement, cette trappe, elle est déjà en train de se refermer. Donc il faut agir tout de suite. Mais c'est aussi l'opportunité d'avoir un meilleur accès aux droits, de simplifier l'accès aux droits, d'automatiser certains renouvellements de droits, de gagner, de faire des gains de productivité dans le travail social, d'avoir moins de temps sur la paperasse et sur la délivrance des prestations et plus de temps sur l'accompagnement. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est d'améliorer l'accompagnement par le numérique. On pourra y revenir, mais il y a des plateformes numériques aujourd'hui. Je pense par exemple à l'appli Entourage pour les personnes sans domicile fixe, ou je pense à des applis d'accompagnement vers la recherche d'emploi. J'étais en Touraine, ils ont monté une plateforme Job Touraine qui marche très bien. Puis dernier enjeu, qui nous mobilise d'ailleurs avec Jean Dédier, c'est comment le numérique est une opportunité pour mieux impliquer les acteurs, pour avoir une meilleure coopération entre acteurs, une meilleure animation territoriale de la lutte contre la pauvreté, parce que c'est souvent des politiques où on fonctionne en tuyau d'orgue, hein, on est les uns à côté des autres, chacun dans son couloir de nage. Moi, je pense qu'on peut changer la gouvernance des politiques sociales par le numérique, et d'ailleurs, nous y travaillons ensemble.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
19h29 en direct sur France Culture. Rebonsoir Jean Dédier.
Bonsoir.
Vous êtes le patron d'Emmaüs Connect, à la fois le fondateur et le directeur d'Emmaüs Connect, qui est une sorte de branche numérique d'Emmaüs, on peut le dire comme ça?
Oui, c'est exactement ça. On travaille sur la lutte contre l'exclusion, mais notre sujet, c'est le numérique.
En particulier donc avec ces outils-là, comment est-ce que vous définiriez les types d'exclusion numérique, sachant qu'ils sont, il y en a plusieurs d'une certaine manière, et je crois que vous en diagnostiquez trois essentiels, trois types de publics qui sont très différents, et pour chacun d'entre eux, évidemment, il y a une stratégie également singulière qu'il faut avoir.
Tout d'abord, rappeler que 14 millions de personnes aujourd'hui en France se disent éloignées du numérique. Et évidemment, vu le nombre, on imagine qu'ils ne sont pas tous au même niveau d'éloignement. Alors, c'est vrai, il y a trois équations à résoudre et pour trois natures de public. Il y a ce qu'on appelle les proches. Ce sont des gens qui, dans le fond, ont les compétences numériques de base, mais juste à la limite. Et pour lequel, le sujet, c'est la réassurance. C'est-à-dire le changement de paradigme, de plus avoir dans un guichet une personne pour les aider, les bloque. Et ils ont besoin, tout simplement, de confiance pour pouvoir...
Donc, ils sont d'accord pour aller sur Internet, ils savent faire, mais parfois, il va y avoir un blocage et là, ils se sont perdus.
Parce que le numérique, c'est effectivement, on est livré à soi-même et on a souvent vécu un certain nombre d'incidents. bloqués par le glossaire, il y a des problématiques de sécurité. Et ce filet de sécurité humain, quand il s'agit de transactions aussi importantes que son allocation Pôle emploi ou d'une allocation de la CAF...
Si on remplit une mauvaise case, on peut perdre son revenu du mois qui arrive.
Exactement.
Si on n'est pas capable d'insérer le bon document dans la bonne case... On a tous parlé d'expérience à Pôle emploi, c'est un truc très très bête pour avoir droit à son allocation. Même quand on est comme moi, on a du mal à le faire parfois.
Voilà, donc là, c'est la catégorie des intermittents du spectacle, c'est encore autre chose.
Mais non, mais c'est pour tout le monde, c'est la même chose. Aujourd'hui, maintenant, vous ne pouvez quasiment plus donner vos documents en main propre, il faut passer par la...
Et puis si on en met deux alors qu'il en demande un, c'est refusé.
Alors,
mais vous n'êtes pas responsable de Pôle emploi.
Mais... Non, pas du tout. Mais alors, pour poursuivre sur cette équation...
Après les éloignés...
Il y a donc les éloignés. Donc là, ce sont des gens pour lesquels il manque des compétences numériques de base. Et là, le sujet, c'est de l'accompagnement, c'est de la formation. C'est un accompagnement vers l'autonomie qui est un métier particulier parce qu'il faut à la fois des capacités sociales, on est face à des publics fragiles, mais il faut aussi des compétences numériques pour pouvoir conduire cet accompagnement de manière orchestrée. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle les exclus numériques. Là, on pense aux personnes très âgées, aux SDF, ou même aux personnes en situation de handicap
lourd.
Qui
n'ont même pas de connexion, par exemple.
Exactement. Et là, l'enjeu, c'est tout simplement les assister, faire avec eux ou à la place d'eux pour qu'ils puissent notamment accéder durablement à leurs droits.
Alors, trois catégories, exclus, éloignés, proches. Laquelle est la plus complexe et où est-ce que vous intervenez, vous, en tant qu'Emmaüs Connect ?
Alors, on intervient un peu sur les trois. Je vais dire que l'équation la plus complexe, c'est l'équation des éloignés. Oui. Les proches, je pense que les grands opérateurs, au regard des enjeux et des gains qu'ils ont, et puis j'ai envie de dire des quelques dizaines de minutes qu'il faut pour produire cette rassurance.
Puis la solidarité familiale, l'intergénérationnel peut aider sans doute.
Je pense que c'est une équation qui va se résoudre, ça va prendre un petit peu de temps. La situation des exclus, elle repose beaucoup sur le métier de l'assistance sociale qui, malgré tout, en France, est quand même relativement pourvue et compétente. Et effectivement, ils changent, ils vivent ce nouveau paradigme du numérique dans leur métier. Voilà, donc il y a une montée en compétences qui est absolument nécessaire, mais je pense que dans les années qui viennent, on va y arriver. Reste le sujet des éloignés et donc de ces programmes de formation. Qui dit formation dit parcours pédagogique, dit donc un investissement financier relativement important. Il faut de la compétence et surtout il faut des liens. C'est-à-dire que si on veut y arriver facilement, il faut arriver à se connecter avec des grands guichets sociaux, soit l'action sociale institutionnelle, soit des opérateurs de la protection sociale. Voilà, et tout ça est le plus complexe, le plus coûteux, et c'est ce qui va prendre le plus de temps.
Peut-être sur, on va parler évidemment des projets que vous avez montés, mais dans quelle catégorie vous mettriez une catégorie que je crois vous avez identifiée, notamment avec We Take Care, la start-up sociale que vous avez montée en partenariat avec Google, notamment tous ces jeunes, parce que c'est ça aussi l'enjeu de cette question de la fracture numérique, c'est qu'on a l'impression qu'on parle souvent des plus âgés, des illettrés, parce qu'évidemment l'illettrisme est encore plus douloureux avec la question du numérique, on est exclu totalement, mais il y a des jeunes, des salariés, des urbains qui font partie de cette catégorie potentiellement des éloignés, avec des jeunes qui parfois utilisent énormément, ont un téléphone. Alors, on n'a même pas encore parlé de la question de l'accès
au mal équipement.
Du mal équipement, mais une fois même qu'on est équipé, on peut utiliser Internet pour Facebook, pour Snapchat et ne pas avoir du tout les compétences ou la légitimité de l'utiliser pour chercher du travail ou s'intégrer socialement ou demander des aides. Là, on est dans quel type de public ?
Alors, vous parlez du public jeune. Effectivement, c'est un peu contre-intuitif, le jeune qui n'est pas autonome sur le numérique. Et malheureusement, il y en a, notamment ceux qui n'ont
pas...
Alors
même qui va sur YouTube, comme le disait Oé.
Exactement. Ils ont des usages numériques, souvent très importants, exclusivement ludiques. Malheureusement, sur l'accès au droit, qui est un peu, on va dire, le premier niveau d'autonomie sur le numérique, ils vont souvent buter sur le glossaire administratif, par exemple. Et puis ensuite, une fois qu'on a passé ce socle de compétences numériques de base, va se poser problème de l'autonomie numérique vers l'emploi. Voilà, avec un certain nombre de codes et des interactions obligées. Aujourd'hui, si on veut chercher du boulot, trouver du boulot, et même préserver son employabilité, il faut cette compétence numérique. Et là, pour les jeunes, c'est un deuxième stade. Et puis, j'ai envie de dire, derrière, aujourd'hui, si on ne continue pas à se former, si on ne s'informe pas des évolutions rapides de notre société, on est aussi perdu. Et là, ce sont des usages numériques encore plus avancés, pour lesquels ces jeunes sans diplôme ne sont pas du tout armés.
Ce que vous proposez notamment à Emmaüs Connect, ce sont des formations de type 30 heures de parcours numérique, par exemple. Ça, c'est un module très fréquent.
Alors, on a deux natures d'accompagnement. On a un premier nature que j'appelle, moi, accueil social numérique. C'est du social classique, c'est de l'urgence. Il y a des gens qui viennent en situation de crise, justement parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à un certain nombre de droits, qui sont bloqués, qui sont en situation de stress. On les accueille on fait un diagnostic de leur situation, on dépatouille un certain nombre de problèmes urgents. Voilà. Et puis, notamment en les mettant en relation avec des mécaniques de pair à pair, on tente à leur démontrer qu'il n'y a pas d'impossibilité pour tous ceux pour lesquels, évidemment, on perçoit un espoir de les conduire vers l'autonomie. Voilà. Donc ça, c'est la première mission, accueil social numérique. Puis il y a une deuxième mission qui nous est évidemment extrêmement chère, qui vise à conduire ces publics éloignés vers l'autonomie, et c'est possible, il n'y a pas de fatalité. Et effectivement, dans des parcours de 30 heures, on arrive à rendre des gens en situation de dépendance sur le numérique à un premier niveau d'autonomie qui fait qu'ils peuvent répondre au moins à leurs premières obligations qui sont communes aujourd'hui à tous les Français pour pouvoir dialoguer avec l'administration.
Alors du comment, puisqu'on parle de l'administration, là vous mettez en valeur les programmes que vous avez mis en place à destination justement de ces usagers, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail, je sais que vous le faites, à faire aussi avec les services publics pour que eux finissent par arriver à l'usager, c'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement à l'usager d'avoir à faire cet effort. Vous avez mis en place un programme qui s'appelle les bons clics, je crois, à cet usage. Quels sont justement les trucs ou les systèmes qu'on peut mettre en place pour que chacun fasse des efforts?
Alors, plusieurs questions, mais je vais essayer d'y répondre de manière ordonnée. La première, effectivement, vous posez la question des responsabilités, et notamment des collectivités territoriales, qui ont évidemment une mission clé, qui est à minima de rendre lisible, on va dire, les lieux et les dispositifs d'aide pour ces millions de Français qui sont en attente. Voilà. Ensuite, il y a effectivement, dans ceux qui ont un rôle clé à jouer, il y a ces opérateurs qui dématérialisent. Et ceux qui nous intéressent, nous, sur les opérateurs, ce que j'appelle moi de services essentiels, qui peuvent être publics ou privés, ça va des opérateurs de la protection sociale, les préfectures aujourd'hui qui ont fermé leurs guichets, mais aussi la SNCF, qui tente à fermer ses guichets, notamment avec une annonce de fermeture des guichets des gares TER. Ça peut être aussi EDF via son chèque énergie, qui est aujourd'hui un parcours dématérialisé. Et là, l'enjeu, c'est de rendre des parcours fluides et inclusifs, avec un vocabulaire et une ergonomie qui soit la plus simple possible. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire, globalement, l'ensemble de ces acteurs doivent arriver à dialoguer dans un parcours qui commence par savoir diagnostiquer la précarité numérique, donc chez ces grands opérateurs sociaux, mais aussi dans ces institutions de quartier. Voilà. Ensuite, il faut savoir orienter sur des cartographies qui doivent se développer et qui font quand même aujourd'hui fondamentalement défaut. Et une fois qu'on a orienté les personnes, effectivement, c'est pouvoir produire cet accompagnement avec là un enjeu qui est clé au-delà du manque de bras, que sont les moyens financiers.
Olivier Noblecourt, vous êtes délégué intermédiaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Une question d'ensemble sur la dématérialisation, on l'a évoqué à l'instant, des services de l'État, que ce soit à Pôle emploi, que ce soit même à la Poste, qui n'est pas exactement un service totalement de l'État, mais avec la fin des relevés papier à la Poste, les enveloppes sans affranchissement d'ailleurs qui ont disparu aussi. Bref, en tout cas, il faut être partout dématérialisé, mais on oublie que pour un certain nombre de, en l'occurrence de Français, c'est pas si simple.
Oui, vous avez raison, il y a une réflexion à avoir et je crois qu'elle est maintenant, la prise de conscience a vraiment eu lieu. Jean-Didier milite sur ces sujets depuis de nombreuses années, on a commencé à travailler ensemble il y a près de 10 ans sur Grenoble. On a aujourd'hui au niveau de l'État une stratégie nationale de numérique inclusif qui mobilise l'ensemble des administrations, qu'il s'agisse de développer les formulaires faciles à lire et à comprendre, il y a une démarche spécifique, qu'il s'agisse d'avoir des lieux d'accès et donc des points d'accès gratuits à Internet qui couvrent l'ensemble du territoire, il y a l'obligation maintenant d'avoir des schémas directeurs sur le territoire. Alors tout ça est assez lourd parce que ça se pilote en mobilisant l'ensemble de l'appareil d'État, mais progressivement, et je rejoins ce qu'a dit Jean-Dédier là-dessus, je crois qu'on va y arriver, ça prend encore un petit peu de temps. Il faut bien
mais est-ce qu'au fond, si on prend l'exemple de Pôle emploi, il y a un changement de culture incroyable. Oui. Il fallait absolument aller au guichet de Pôle emploi, c'était l'obligation, et maintenant, il ne faut plus y aller. Le fait de ne plus y aller...
Sauf qu'au guichet de Pôle emploi, vous êtes vous-même guidé, vous avez des personnes maintenant qui vous guident dans vos démarches numériques.
Mais est-ce que d'une certaine manière, tous ces Français qui, eux, le font très bien de manière numérique, est-ce que ça ne permet pas d'ouvrir tout un tas de postes pour justement s'occuper de ceux qui ne sont pas dans une sécurité numérique?
Absolument, c'est ce que nous on appelle le fait de réallouer les gains de productivité liés à la dématérialisation, à l'accompagnement humain. Le problème, c'est qu'une grande partie de cet accompagnement humain aujourd'hui, il est phagocyté par du temps de remplissage de paperasse et de formulaires qui sont souvent extrêmement lourds et longs. La dématérialisation des procédures, le fait qu'on va aussi avoir de l'échange de données entre administrations, qu'on va avoir ce qu'on appelle un coffre-fort numérique. Alors, sa forme précise, mais tous, autant que nous sommes, d'ici quelques années, nous aurons un espace numérique dédié avec nos principaux documents clés.
Vraiment, c'est France Connect, c'est ça?
Absolument. Alors, il y a plusieurs expérimentations en cours. la Poste en est une.
Le guichet unique.
Mais voilà. Il y aura une forme de guichet unique numérique qui permettra à chacun d'avoir une forme de domiciliation numérique et donc pour les administrations d'avoir une grande simplification. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un temps de maîtrise de la dépense publique, donc il y a des gains qui sont directement affectés à des réductions d'effectifs. La difficulté pour nous et tout l'enjeu, c'est les transformations des métiers. Et pour cela, nous engageons un plan majeur au-delà de la MEDNUM, c'est-à-dire la médiation numérique et du collectif d'associations qui s'est constitué autour d'Emmaüs Connect, de WeTechCare et d'autres. Nous engageons aujourd'hui un plan de formation des travailleurs sociaux au numérique et à prendre en compte l'ensemble des dimensions des numériques, y compris dans l'accompagnement. Quand je dis que Pôle emploi accueille sur le numérique et que vous avez un conseiller qui vous aide à faire vos démarches, c'est une réalité aujourd'hui.
Alors justement, mais parce que là vous l'avez dit, vous engagez, il faut quand même rappeler que le tout numérique théorique voulu c'est 2022, que dès l'année prochaine on remplit notre déclaration d'impôt uniquement en ligne en 2019, ça c'est demain concrètement. Donc on est dans une temporalité qui est quand même, il y a un petit hiatus temporel dans cette histoire.
Écoutez, très franchement, ça fait quand même de nombreuses années, vous parlez des déclarations d'impôts, qu'on est sur ce type de transfert. À un moment ou un autre, il faut franchir le pas et il faut se décider à faire l'épreuve de vérité. Ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup aujourd'hui des professionnels des caisses de sécurité sociale ou des grands opérateurs ont fait l'objet de formations et que les gros réseaux nous disent qu'ils sont en capacité de faire face. Le rôle de l'action sociale aujourd'hui, c'est d'aller chercher les plus exclus ou les éloignés et donc de travailler en effet sur de la connaissance des publics. Le pire, c'est la situation de ceux qu'on ne connaît pas, de ceux qu'on ne voit pas, ceux avec qui on n'est pas en contact. Et donc ça suppose d'aller bien au-delà de l'enjeu numérique. Ça suppose de transformer l'intervention sociale pour que les gens aient envie d'aller nous voir.
Une question pour vous deux. On a l'impression, c'est pas un jeu de mots, mais que sans le numérique, on peut plus être pauvre. Sans le numérique, on peut plus être chômeur.
On n'a plus le droit.
C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit. Est-ce que il n'y a pas un immense débat à avoir sur, par exemple, les frais bancaires pour les pauvres qui ont été plafonnés, mais ça reste compliqué puisqu'ils ont les banques sont très malines pour trouver des solutions pour contourner la loi, l'arnaque aux gens les plus fragiles. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations vraiment très critiques?
Alors, la première chose à faire, c'est en effet d'agir sur les grands réseaux. Alors, bancaires, quand il s'agit des incidents de paiement, vous avez vu qu'une négociation s'est tenue cet été et a permis d'avoir un premier stade de plafonnement. L'autre enjeu, c'est de développer aussi les pratiques citoyennes d'un certain nombre d'entreprises. Emmaüs Connect l'a développé sur la téléphonie mobile il y a de très nombreuses années. C'est comment on fait en sorte qu'un certain nombre d'industriels renoncent à un certain nombre de leurs marges pour permettre l'accès à bas prix. Donc, on inverse. Martin Hirsch avait fait un bouquin assez tristement savoureux qui disait que ça coûte cher d'être pauvre. Et d'une certaine manière, c'est le cas aujourd'hui sur la pauvreté numérique pour un certain nombre de nos concitoyens fragiles. L'enjeu, c'est d'inverser la charge de la preuve et de faire en sorte que parce qu'on est fragile au plan financier, on est davantage aidé au plan numérique, y compris sur l'accès au matériel.
Jean Dédier.
Oui, peut-être en complément, ce que je vois, c'est que souvent dans le monde de l'entreprise qui dématérialise et même dans la fonction publique, il y a quand même une méconnaissance de la grande précarité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ces parcours digitaux, ces glossaires utilisés, on dit tiens c'est curieux, probablement qu'ils traitent très bien le 80% des Français autonomes, mais il y a quand même un déficit, on va dire, de vision, de visibilité, de
c'est pas du tout
lien.
Intuitif déjà souvent.
Oui, enfin ce qu'on constate, hein, pour reprendre le sujet de la question préalable, mais qui fait quand même le lien avec ce qu'on vient de se dire, c'est que il y a un plan national d'inclusion numérique qui a été lancé en 2017, alors qu'en 2016, un certain nombre d'opérateurs sociaux créent déjà des parcours 100% numériques pour l'ensemble des Français. Donc on voit de toute façon qu'à la base, il y a une espèce de décalage quand même entre la réalité des Français les plus fragiles et un certain nombre de grands plans nationaux. Voilà, donc s'il y avait quelque chose à faire, pour répondre à votre question de manière très directe, c'est à l'intérieur, on va dire, de ces directions, c'est tisser des liens, on va dire, un peu plus étroits avec les acteurs de terrain qui, eux, peuvent remonter des réalités et ne pas toujours penser qu'aux 80% des Français autonomes aujourd'hui.
Et pour rebondir sur ce que vient de dire Jean Dédier, c'est très important de dire qu'il faut remuscler la première ligne de front, c'est-à-dire les travailleurs sociaux du quotidien, les agents d'accueil, des caisses de sécurité sociale, des mairies. Donc tout ça est mis en œuvre avec plus ou moins de décrochage initial et de rapidité aujourd'hui. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est aussi de former les cadres, à la fois dans le champ entrepreneurial, on l'a dit, mais dans le champ de l'action sociale. Et un des enjeux sur lesquels nous avons décidé de nous mobiliser ensemble, c'est justement sur cette prise de conscience par les décideurs dans les collectivités locales, dans les caisses de sécu sur le territoire. Parce que là, pour le coup, la compétence numérique d'une classe d'âge, on va dire 50-60, qui n'est pas forcément ultra familiarisée avec le numérique, cette dimension-là est souvent insuffisamment prise en compte.
Je lisais ce matin cet article du Monde qui a beaucoup tourné. Vous l'avez sans doute vu que le ministre en charge de la cybersécurité au Japon, qui a plus d'une soixantaine d'années, a confessé n'avoir jamais touché un ordinateur. C'était une très belle illustration de cette problématique-là. Mais au-delà de ça, vous l'avez dit, je crois que ça fait partie de votre programme dans les bons clics. Il y a aussi des solutions que vous pouvez penser, parce que vous êtes justement des acteurs sociaux au contact de ces populations qui sont mal connues et mal diagnostiquées souvent. Ces idées de, par exemple, mettre en place avec les opérateurs des services publics des écrans partagés, de manière à ce que les gens puissent faire des démarches en étant accompagnés ou des formulaires simplifiés si on le demande. Quelles sont les pistes que vous pourriez concrètement co-construire avec les acteurs
publics ? Les bonnes pistes.
Les bonnes pistes.
Alors les bonnes pistes, il y a cette plateforme Les Bons Clics. Les Bons Clics, c'est quoi ? C'est une plateforme dans laquelle il y a tout pour l'aidant numérique. Hein. D'ailleurs, qu'il soit professionnel, service civique, salarié en insertion ou même bénévole, parce qu'il faut oublier que le premier réseau d'inclusion numérique aujourd'hui en France et qui fonctionne, c'est les proches et la famille. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces bons clics ? Donc, dans ces bons clics, on a mis l'ensemble des parcours pédagogiques qui permettent d'accompagner quelqu'un vers l'autonomie sur les compétences numériques de base.
Pour l'emploi, la sécurité sociale.
Oui, mais ça commence plus bas. Qu'est-ce que c'est qu'un operating system ? Comment je me sers d'une souris ?
Ouais.
Exactement. Parce que c'est ça dont on parle pour ces publics éloignés.
Qu'est-ce que c'est Internet ? Parce qu'il y a certains publics qui n'arrivent même pas à se représenter ce qu'est Internet. Il faut quand même oublier que conceptuellement, c'est un truc étrange.
Le mulot, c'était il y a 20 ans, je crois. Hein.
Voilà. Et puis, effectivement, ensuite, il y a des outils pédagogiques interactifs qui permettent de s'entraîner sur un certain nombre de téléprocédures clés, comme si je prends l'exemple de Pôle emploi, avec lequel on travaille de manière assidue, c'est m'entraîner sur la téléprocédure, actualiser mes droits. Voilà. Et ensuite, on met aussi dans cette plateforme des éléments plus directs pour les aidants. C'est quoi les bonnes postures ? Comment je deviens un bon aidant ? Voilà. Et on déploie cette plateforme via, des collectivités territoriales et au travers aussi d'interactions qu'on a avec les grands opérateurs.
Olivier Nolucco.
Oui, autre exemple de bonne pratique. On a aujourd'hui des caisses de sécurité sociale. Par exemple, la CAF de Gironde a déployé ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire la capacité à repérer les allocataires en situation de non-recours aujourd'hui. Donc des allocataires qui pourraient bénéficier de droits sociaux, de prestations, mais qui n'en font pas la demande. Et donc, pour le coup, le numérique permet de les identifier, d'aller les chercher, de leur faire une proposition d'accès aux droits. Et donc, d'une certaine manière, c'est pour ça que je dis qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités. Cette démarche de data mining va être généralisée dans l'ensemble des CAF de France en 3 ans. On a des éléments dans le numérique extraordinairement positifs. Et je le redis, c'est une opportunité d'améliorer l'accompagnement et de mieux l'individualiser. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte un peu de l'artisanat sur un certain nombre de dimensions dans l'accompagnement numérique. On industrialise un certain nombre de processus, notamment dans l'accès aux formulaires, pour pouvoir mieux personnaliser l'accompagnement. Et le numérique est vraiment une façon, dans le champ commercial, ça fait bien longtemps que cette évolution et cet apport du numérique à la personnalisation dans une relation client est déjà mise en œuvre. Il faut certainement pas entrer dans une relation consumériste au travail social, mais par contre, il faut entrer dans une meilleure compréhension des projets des personnes et une capacité d'adapter l'accompagnement aux besoins des personnes. Le numérique va y aider.
C'est parfois des choses aussi toutes simples. Je pense à ces exemples d'églises que j'ai pu voir où l'église, tout simplement, elle permettait aux SDF de venir recharger leur portable. Chose qui paraît évidemment simple, mais il y a tout un tas de gens, notamment évidemment des SDF, qui ne savent pas où recharger leur portable, Jean Dédié.
Oui, complètement. Et c'est ce que vous dites fait le lien avec le problème de l'accès et de l'équipement. Effectivement, un sujet qui a été un peu dépassé par les enjeux sur les usages qui touchent effectivement, on va dire, un plus grand nombre de Français. Mais il faut bien comprendre que pour les publics en grande fragilité budgétaire, les quelques dizaines d'euros qu'il faut tous les mois pour acheter un smartphone et pour avoir des connexions, je veux dire, sont inaccessibles. Et là, pour le coup, il y a...
Et en plus, les SDF payent plus cher, d'une certaine manière, leur téléphone parce qu'ils ne vont pas avoir d'abonnement et donc par le système des cartes prépaid ou des pénalités qu'ils vont avoir parce qu'ils n'ont pas payé à temps, ça leur coûte plus cher finalement que quelqu'un qui est un peu plus à l'aise financièrement.
Et oui, par les mécanismes commerciaux assez traditionnels, quand on achète des unités téléphoniques, c'est beaucoup plus cher que celles qu'on achète dans le cadre d'un abonnement. Et effectivement, les gens, notamment les non-bancarisés, donc les publics SDF dont vous parlez, achètent du coup leur unité 10, 20 fois plus cher que vous et moi.
Et sur la question tout simplement du budget, de ce que coûte cette réduction de la fracture numérique, il y a des chiffres qui tournent. On estime, il a été estimé par plusieurs études, que réduire cette fracture numérique coûterait 1 milliard sur 6 ans pour faire économiser 1 milliard et demi, je crois. Je pose la question de but en blanc, est-ce que ces moyens sont là ?
Olivier Noblecourt.
Oui, ils sont là parce qu'aujourd'hui, encore une fois, et même ceux que vous pointez, oui, j'en dédie d'autres lignes de la tête pour nos auditeurs, ils sont là, vous savez, dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, on a 8,5 milliards qui vont être consacrés à cette stratégie dans les 4 prochaines années, et on en a plus d'un demi-milliard par an directement consacré à l'accompagnement social des personnes. Alors, c'est toujours difficile de faire des codes-parts. Qu'est-ce qu'on va mettre comme dans le numérique là-dessus ? Moi, je considère aujourd'hui que entre ce qu'on appelle les conventions d'objectifs et de gestion des caisses de sécurité sociale, l'engagement de Pôle emploi, l'engagement de l'État pour lui-même et les démarches spécifiques pour les publics les plus éloignés, les montants, ils sont la capacité aujourd'hui, à mon avis, la plus en cause, c'est celle à fédérer les acteurs pour éviter les trous dans la raquette sur le territoire. Je crois que le vrai sujet, c'est l'animation territoriale. Les gros plans qu'on déroule avec des moyens, ça fonctionne, mais ça ne suffit pas. Et donc, il va falloir faire un peu de dentelle, il va falloir faire confiance aux acteurs de terrain, et c'est ce qu'on est en train de vouloir mettre en place.
Jean Dédier.
Oui, alors c'est vrai que par le plan pauvreté, il y a des choses qui vont arriver. Aujourd'hui, il y a quand même clairement déficit de moyens. Nous, vous le rappeliez, on a même démarré avec des opérateurs comme Google ou SFR et globalement des fondations, les grosses fondations françaises qui nous ont très largement permis de démarrer. Et sans eux, on n'existerait pas aujourd'hui. Alors, et aujourd'hui, effectivement, on dialogue avec les pouvoirs publics, avec Olivier Noblecourt, pour pouvoir, je dirais, donner un deuxième élan et, on va dire, globaliser un peu ces démarches. Mais globalement, aujourd'hui, je voudrais surtout qu'on ne se trompe pas. Je veux dire, il n'y a pas de bras où il n'y a pas de cerveau pour accompagner les Français.
Vous cherchez 20 bénévoles à Bordeaux, m'a-t-on dit.
On cherche 20 bénévoles à Bordeaux, mais on cherche des milliers de bénévoles. Voilà. Et pas que. On a aussi besoin.
Donc, si ça vous êtes intéressé, Emmaüs Connect, il y a un site pour ça. Une question un peu particulière, mais c'est souvent dans les détails et dans des choses toutes simples que les problèmes se posent. On parle aussi souvent de la faible qualité des appareils. Alors, c'est pas le tout d'être équipé, mais je ne sais pas si vous avez un smartphone de très mauvaise qualité, s'inscrire à Pôle emploi ou arriver à accéder avec un mauvais smartphone à votre dossier sécurité sociale, c'est très 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 complexe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ?
Alors, on y travaille. D'ailleurs, j'en ai parlé à Olivier Noblecourt, d'ailleurs qui m'a dit qu'il m'aiderait. Mais aujourd'hui, on peut probablement travailler à l'échelle nationale parce que beaucoup d'acteurs, aujourd'hui c'est quand même conscient du sujet, beaucoup d'acteurs sociaux de terrain, et probablement, et c'est ce qu'on cherche à faire, alors avis aux auditeurs, c'est trouver des mécanismes, on va dire, d'achat-revente, comme on dit, at cost, le jargon pour nous, chez nous, on appelle ça un social business, mais en gros, nous, on serait capable aujourd'hui de prendre des engagements sur des volumes très importants, voilà, et je cherche un partenaire équipementier qui accepte de me vendre à coût réel ces produits-là. Et moi, je suis derrière en capacité de les redéployer auprès de l'ensemble des acteurs sociaux qui me réclament ces produits tous les jours.
Olivier Noblecourt, il y a une expression qui, je crois d'ailleurs, vient des pays nordiques. On parle d'investissement social.
Tout à fait.
Ça vous satisfait ?
Oui, l'investissement social, c'est cette idée d'abord que le social est un investissement, que la dépense sociale, c'est une dépense d'avenir pour la société. Et c'est quelque chose que nous voulons profondément réhabiliter. Et puis, c'est l'idée que lorsqu'on investit dans le social, on s'épargne d'autres coûts. Donc, l'investissement, il y a l'idée d'un rendement. Alors, le rendement, il est d'abord dans le capital humain, d'une certaine manière, dans le bénéfice qu'en tirent les personnes. Il faut d'abord s'attacher au bien-être des personnes, mais aussi, il y a un rendement pour la collectivité, y compris monétisable, parce qu'évidemment, et le grand pape de l'investissement social, c'est le prix Nobel d'économie James Heckman, qui a démontré que plus on investissait tôt dans la dépense sociale, donc sur la petite enfance, plus on faisait faire à la fois des économies à la société, et surtout, on avait de bénéfices pour les individus concernés. C'est tout l'esprit même de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Mais cette logique d'investissement social, on doit la retrouver aussi.
Ça veut dire, sans polémique inutile, mais que l'argent consacré par l'État aux minima sociaux, c'est pas un pognon de dingue.
En fait, la formule du pognon de dingue, elle est intéressante parce que ce qu'elle révèle, c'est le montant. Vous pouvez toujours discuter si vous le trouvez excessif ou pas. La question, c'est est-ce que les résultats de ce que vous investissez sont à la hauteur de vos espérances. Et je crois que l'ensemble des acteurs sociaux conviennent qu'aujourd'hui, le coût du système de protection sociale français est très élevé par rapport, en effet, aux bénéfices qu'il apporte aux personnes concernées. Il y a trop de trous dans la raquette, trop de gens qui n'ont pas accès aux droits.
Trou de la raquette, ça fait deux fois que vous avez l'expression.
Oui, parce que
ça vient de Grenoble, cette expression.
Non, c'est pas une expression grenobloise. En tout cas pas que je sache. Mais c'est une préoccupation majeure parce que dans le social, on a parfois tendance à tenir des propos généraux. Or, évidemment, vous disiez tout à l'heure que le diable se niche dans les détails. En fait, il y a plusieurs formes de pauvreté aujourd'hui. Et il y a certaines formes de pauvreté, les familles monoparentales, la pauvreté des enfants, c'est un enfant sur cinq, dont on a beaucoup détourné le regard toutes ces dernières années. On parle beaucoup de formes de pauvreté, travailleurs pauvres qui sont réels. La prime d'activité va être augmentée pour y répondre. La pauvreté des personnes âgées, il va y avoir une revalorisation qui est déjà engagée très importante du minimum vieillesse. Mais n'oublions jamais que dans notre pays, une personne en situation de pauvreté sur trois aujourd'hui est un enfant ou un mineur.
Olivier Noblecourt, peut-être une question presque pour terminer cette émission. Vous êtes sur le terrain, vous rencontrez des associations. On pourrait en citer beaucoup d'ailleurs. On a reçu ce soir, on reçoit Emmaüs Connect, mais on aurait pu parler de Bibliothèques sans frontières, on aurait pu parler de Simplon. Simplon qui s'occupe un peu, disons, des gens qui sont plus tellement en pauvreté, mais qui sont en difficulté malgré tout vis-à-vis du numérique, qui peuvent trouver un travail grâce à Pôle emploi. Est-ce qu'il y a des associations, des situations qui vous ont marqué lors de votre travail de terrain?
Oui, ça va nous éloigner un petit peu du numérique, mais moi, ce qui me marque le plus profondément, c'est que nous sommes dans une société qui aujourd'hui vit avec un trop grand nombre d'enfants dont les droits essentiels ne sont pas respectés. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de milliers d'enfants qui, tous les jours, vivent dans un cadre qui est attentatoire et à leur développement et à leurs droits leurs plus essentiels. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'alimentation. Et c'est terrible parce que je vous disais dans nos premiers échanges qu'on ne prévenait plus la pauvreté en 2020 ou presque comme dans les années 60. L'enjeu, c'est pas la survie des personnes qu'on disait à l'époque indigentes, ou c'est pas seulement l'accès aux droits. C'est important l'accès aux droits, mais ça ne suffit pas. L'enjeu, c'est pas uniquement de donner une aide monétaire aux personnes. L'enjeu, c'est de leur permettre de déployer un destin. Et on a ce terrible paradoxe, c'est qu'au moment où on s'engage vers ce que le président de la République a appelé un modèle social de l'émancipation, on investit sur les compétences, on investit sur l'accompagnement, on est dans une société où on donne aux individus les moyens d'être résilients face au risque de pauvreté. Au moment où on fait ce pas-là, eh ben on est rappelé chaque jour par une réalité ô combien cruelle, c'est celle de gamins qui aujourd'hui n'ont pas le strict minimum pour vivre. Donc on va essayer d'avancer sur ces deux jambes, la prévention et l'action urgente, notamment en partant de la situation des plus fragiles, c'est-à-dire des enfants, et puis en même temps ce changement de modèle social où on ne se satisfait pas de montants de dépenses monétaires, mais on investit dans les services collectifs.
Un dernier mot peut-être, Jean Dédié.
Non, moi je
commandant, oui.
En fait, moi c'est le message que j'aimerais faire passer, c'est que le numérique, c'est pour les publics fragiles, c'est d'abord une compétence sociale. Et je fais un appel, moi, à tous les acteurs sociaux, les grands réseaux, à commencer par ma famille Emmaüs, mais aussi la Croix-Rouge, le Secours catholique, tous ces acteurs qui aujourd'hui sont au contact massivement de ces publics. Il faut absolument, savoir diagnostiquer la précarité numérique aujourd'hui. Et on a une responsabilité commune pour accompagner les publics que l'on a aujourd'hui pour des sujets de logement, d'insertion professionnelle, etc. Il faut les accompagner sur ces compétences numériques de base. Nous sommes le premier rempart contre l'exclusion numérique.
Et il ne faut pas abandonner cette question de fracture numérique, et vous l'avez souvent dit, je crois, aux grands géants du web qui ont été les premiers à vous aider. Vous l'avez dit, c'est pas anodin que ce soit Google et SFR qui vous aient donné les premiers des fonds. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, et je pose une dernière question, une question éthique sur le fait qu'évidemment, ce sont ces premiers acteurs qui aujourd'hui s'intéressent presque le plus avec l'État à ces questions.
L'État est là, rassurez-vous.
Olivier Noblecourt, la fracture numérique dont vient de parler Zoé, c'est une fracture numérique, et c'est peut-être aussi ça qu'on a dit ce soir, qui n'est plus simplement dans les équipements, etc., puisque beaucoup de gens ont accès, mais elle l'est aussi, et évidemment elle est sur l'illettrisme et tout ce qu'on appelle l'électronisme, notamment numérique.
Ce qu'a très bien montré Jean Dédié, c'est qu'en fait l'exclusion numérique, c'est une exclusion tout court, et qu'en fait elle est à la base de tous les mécanismes d'exclusion actuellement, la domiciliation, l'accès à l'accompagnement. Donc régler la question de l'exclusion numérique, c'est s'attaquer de front à la question de l'exclusion tout court, et en effet c'est une responsabilité d'État et pas des GAFA. On peut construire des choses intelligentes avec les entreprises, mais l'État est à la manœuvre.
Voilà, on est revenu sur les Google, Apple, Facebook, Amazon. Dans Soft Power. Merci infiniment à vous deux, Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et la lutte contre la pauvreté, Jean Dédié, fondateur et directeur d'Emmaüs Connect. Pour ceux qui souhaitent plus d'informations, notamment les références, les adresses, le moyen de contacter les uns et les autres, tout ça sera posté, ainsi que les articles et les livres qu'on a consultés pour préparer cette émission, notamment ce livre « L'Internet des familles modestes, enquête sur la France rurale ». qui a été écrit par Dominique Pasquier, que je recommande. Tout ça sur la page de Soft Power sur le site de France Culture. Soft Power dans un instant, seconde partie de cette émission. À 20h10, le Club de la Presse Numérique. Nous parlerons de l'opération commerciale Black Friday qui aura lieu ce vendredi et qui marque une nouvelle date dans le date clé dans le shopping largement popularisé par Amazon avec toutes les ambiguïtés de ce modèle. Et puis dans un instant, Zoé Sfès, votre invité innovation qui est entré dans le studio.
Il est là, il s'appelle Mathias Destal, il est cofondateur de Disclose, le premier média d'investigation à but non lucratif. Il a été lancé au début du mois. Il fait l'objet d'un crowdfunding, d'un appel à dons. Le but, c'est donc de mener des enquêtes au long cours, financées par à la fois des fondations, des mécènes, mais aussi des particuliers. On en parle avec lui aujourd'hui.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Je parle aussi vite qu'Olivier Noblecourt, qui était très caféiné ce soir. Merci à vous deux, tout ça à suivre après Anderson .Paak sur France Culture. Ambiant. And you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got to draw no extra attention. Paparazzi wanna shoot ya, shoot ya. Niggas dying for less out here. I've been in my bag anyway, trying to throw a bag in the safe. Gig and torture in the base. Baby, might have won some baby names. Niggas dying for less out here. Do what I gotta do, bruh, do, bruh. Get up in my rearview mirror. I can't be je disais ambiance tout à l'heure, ambiance à l'instant avec un titre extrait du nouvel album du rappeur américain Anderson .Paak, disponible depuis ce vendredi. Son album intitulé Oxnard, le nom de sa ville natale en Californie d'ailleurs. Cet album accueille dessus l'album donc, c'est tout simple, les plus grands artistes du genre, Dr. Dre, Snoop Dogg, et sur le titre Teens que vous venez d'entendre, Kendrick Lamar.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfès.
Bonsoir Mathias Destal.
Bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir, vous êtes l'un des cofondateurs, vous êtes journaliste, hein, journaliste on peut le dire, vous êtes passé par Marianne, et nous vous recevons ce soir parce que vous êtes l'un des cofondateurs de Disclose. Disclose qui a été lancé le 6 novembre dernier, projet de média d'investigation à but non lucratif. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vous pourriez essayer de me définir ce projet très novateur en quelques mots?
Alors Disclose.ngo, qui est un site internet en ligne, va être un média d'investigation au long cours avec des équipes de journalistes, de 3 à 4 journalistes qui vont enquêter sur des grands sujets d'intérêt général pendant 3, 4, 5, 6 mois, voire un an si c'est nécessaire, afin de sortir des informations difficiles de les révéler dans des entreprises de presse autres que Disclose, parce qu'il faut du temps et des moyens. Et c'est ce qu'on va mettre en place là pour enfin avoir des informations d'intérêt général solides sur des sujets délaissés ou ardus.
Parce que c'est quoi le constat? On sait aujourd'hui, on en parle très souvent ici dans Soft Power, qu'il y a une crise de la presse. C'est à la fois évidemment une crise financière, une crise de crédibilité aussi. L'une alimente souvent l'autre. Quel est le constat et quelle est peut-être la place qui aujourd'hui n'existe pas pour ce type d'acteur? C'est quoi le constat concrètement? Vous êtes journaliste et vous travaillez avec d'autres journalistes au sein de cette ONG donc.
Oui, alors on est à Disclose une quinzaine de journalistes, on a tous fait et on fait encore de l'investigation, et le constat de l'équipe, c'est que l'investigation journalistique qui demande du temps et des moyens est de plus en plus difficile à supporter pour les médias, parce que la concentration des médias, c'est une première chose, mais la concurrence des médias qui doivent être sur du flux et répondre à un agenda de l'actualité fait qu'ils doivent avoir des journalistes dédiés à ces questions-là. Et l'investigation journalistique en devient le parent pauvre. Et nous, l'idée, c'est de concentrer toutes nos forces sur ces grands sujets. Ça signifie que on ne sortira pas une enquête, comme je vous disais, au bout d'une semaine, deux semaines ou trois semaines, avec un rédacteur en chef qui nous dira il faut la sortir, il faut qu'on remplisse nos pages, et puis il faut que tu partes sur autre chose. Donc, les enquêteurs, journalistes, resteront sur leurs enquêtes à temps plein pendant plusieurs mois avant de la sortir, sans contrainte de flux.
Voilà. Effectivement, et ce qui est très très novateur aussi dans l'idée et dans l'ambition, c'est le financement de ces enquêtes. Parce qu'en fait, c'est un petit peu, évidemment, l'argent qui reste le nerf de la guerre. Absolument. Dans cette industrie comme celle des médias, même si ça n'est pas une industrie comme une autre. Et là, en l'occurrence, vous embrassez un modèle qui existe déjà à l'étranger, mais qui est tout à fait nouveau et peut-être culturellement assez difficile en France à faire admettre, qui est celui en fait de la philanthropie. Comment est-ce que vous comptez vous financer ?
C'est ça, nous on est une organisation à but non lucratif, à l'image de d'autres médias à but non lucratif qui existent en Europe, en Allemagne par exemple Corrective, aux États-Unis ProPublica qui est un peu le père de toutes ces organisations. En Angleterre aussi, The Bureau of Investigative Journalism. Voilà, il y en a beaucoup qui sont dédiés à l'investigation. En France, c'est pas le cas. C'est culturel probablement. Nous, l'idée, c'est de renouveler le contrat qu'on aurait avec nos lecteurs. Pas d'abonnés, mais des membres. Des membres, vous avez dit ONG à un moment, des membres d'une ONG de l'investigation et de l'information.
Donc, en gros, l'information est une cause comme une autre qu'il est nécessaire de défendre. C'est ça le principe.
C'est ça. Nous, on part du principe que l'information est un bien public et qu'elle est nécessaire au débat démocratique et au débat citoyen, et qu'il y a des informations aujourd'hui qui nous sont dissimulées, qu'il faut révéler pour nourrir le débat démocratique. Et pour ça, on s'appuie sur une communauté qu'on est en train de créer là, parce qu'on a lancé une campagne de levée de fonds participatif sur le site, pour ne pas le citer, KissKissBankBank.
Mais citez-le.
On veut créer un grand mouvement autour de cette question de l'information et de l'intérêt général. Donc, il y aurait des dons de particuliers, des petits dons, mais aussi des dons de grands mécènes. On est en train de cibler des profils qui sont assez nouveaux, de personnes qui auraient entre 40 et 50 ans, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui veulent aujourd'hui l'investir dans des causes à fort impact dans la société. L'information en est une. Et des fondations, des grandes fondations, alors internationales, il y en existe plusieurs. On pense souvent à l'Open Society qui finance l'investigation à travers le monde, au Media Network, aussi une fondation américaine qui finance pareil l'investigation à travers le monde, et beaucoup d'autres. En France, les fondations sont encore un peu frileuses.
Les fondations d'entreprise, on sait qu'on a de très grosses fondations d'entreprise en France. Est-ce que, à terme, évidemment avec les questions que ça pose derrière, la Fondation Total, la Fondation L'Oréal, est-ce que ça peut être potentiellement un jour des gens qui vous donneraient de l'argent, qui seraient d'accord pour le faire et vous d'accord pour en accepter, si évidemment, et on va en parler après, le modèle fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il y a une intentionnalité totale entre les gens qui vous donnent de l'argent et les enquêtes que vous faites?
Non, sur le principe, on ne veut pas être financé par des fondations d'entreprise parce qu'elles posent pour nous un certain nombre de problèmes, de conflits possibles, multiples et variés. On veut pas rentrer dans des pratiques de greenwashing, de journalisme washing, on parlerait pour nous. Et on s'est dit que ça serait un casse-tête de choisir entre la fondation Total et la fondation Evian.
Deux
exemples, mais une serait peut-être éthiquement plus supportable que l'autre, et on ne voulait pas avoir à créer un comité d'éthique. Donc les fondations d'entreprise, non, elles sont pas à l'ordre du jour.
Néanmoins, on reste sur une idée de philanthropie, une idée de philanthropie novatrice. Quelle est la structure justement de ce modèle de disclose qui permet aussi, parce que vous l'avez dit, culturellement en France, on est peu adepte de la philanthropie, alors qu'elle est très forte et dans tous les domaines, dans le monde anglo-saxon par exemple. Comment est-ce qu'on garantit l'indépendance des enquêtes que vous faites? Et peut-être aussi, comment est-ce que vous luttez contre cette forme de défiance qu'on peut avoir en France contre ça? En quoi la structure porte-t-elle ces questions-là?
Alors, dans l'organisation disclose.ngo, le principe est simple. Il n'y a pas de fléchage des investigations. C'est-à-dire qu'une fondation ou un philanthrope qui donnerait de l'argent ne donne pas de l'argent pour une investigation précise. Ça veut dire qu'il n'a pas une influence sur les sujets et sur l'éditorial de disclose. C'est la première chose. Ensuite, à partir de 2000 euros de dons, l'identité du donateur sera rendue publique sur le mur des donateurs, tout comme les fondations, le nom des fondations, tout ça sera très transparent. Et par ailleurs, il y a un conseil d'administration à Disclose, composé de 10 personnes, des avocats, des économistes, dont Julia Caget, des avocats François Laforgue, Joseph Bréham, Virginie Marquet, qui est membre de Informer n'est pas un délit, qui eux auront à charge de veiller à ce que la gestion de Disclose soit absolument désintéressée, mais ils ne seront pas dans le secret des enquêtes menées dans une autre structure qui est celle du comité éditorial.
Justement, parce que c'est aussi l'autre aspect très innovant de ce projet Disclose, c'est à la fois de pouvoir aussi solliciter certains des membres de cette ONG pour potentiellement les faire participer à des enquêtes, et c'est aussi potentiellement d'engager des actions derrière les enquêtes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? C'est-à-dire que en réalité, aujourd'hui, on a des médias qui, quand ils le peuvent, révèlent des informations, parfois grâce à des donneurs d'alerte, mais effectivement, on est sur une logique où l'information est divulguée et finalement, parfois, il n'en arrive rien. On n'en sort plus rien.
Absolument. C'est un des principes fondamentaux de Disclose. C'est ce qu'on aime dire, c'est qu'on veut passer de l'indignation à l'action. Donc, une fois qu'une enquête sort et les révélations qui vont avec, on souhaite prolonger ce travail-là grâce aux avocats qui sont avec nous, pour par exemple mener des recours juridiques avec un plaidoyer, c'est toujours le même, le droit à l'information. Si on part sur une enquête sur le nucléaire et sur une centrale nucléaire qui aurait un tas de dysfonctionnements, on arrive à avoir des éléments, mais l'entreprise ne nous donne pas accès à tous ces éléments. Ce sont des informations d'intérêt public. Nos avocats et nous-mêmes, on s'organisera pour avoir un accès public, rendu public à ces informations pour que les citoyens s'en saisissent et nourrir le débat public. Donc ça, c'est une des possibilités. Ensuite, on veut travailler de manière collaborative avec nos membres, avec notre communauté. C'est-à-dire que les enquêtes pourront faire l'objet d'appels à sources au sein de l'équipe membre de la communauté de Disclose. Et on peut, par exemple, imaginer si on fait un sujet sur la pollution des rivières, plus de 90% des cours d'eau en France sont pollués, on peut imaginer qu'on fasse appel à la communauté qui irait, avec un kit qu'on leur aurait envoyé, refaire des prélèvements dans ces cours d'eau pour ensuite nous les renvoyer, les faire étudier en laboratoire. Ce ne seraient pas les journalistes qui traverseraient la France pour aller récupérer ces échantillons, mais la communauté de membres active qui permettrait de faire remonter des informations nécessaires ensuite à notre base de travail.
Comment est-ce qu'elle est diffusée cette information ensuite ? Est-ce que c'est vous qui la publiez ? Est-ce que vous la vendez ?
On ne la vend pas. Comme on est sur un modèle de don et de philanthropie, elle est en accès libre. Elle sera en accès libre sur notre site disclose.ngo et on travaille aussi avec des médias partenaires. Les médias partenaires ont pour seul engagement de la rendre également accessible à tous, gratuite. Ces médias, c'est Mediapart, Combini News, qui est un média qui parle à une cible qui est pas celle de l'investigation, donc une cible plus jeune et très qui s'informe sur les réseaux sociaux, sur Internet. La cellule investigation de Radio France.
Bravo.
Et également des médias régionaux, les rues 89 à Bordeaux, Marseille et Lyon, et Mars Actu à Marseille.
Qui s'engagent du coup à ne pas faire de publicité sur les contenus qui sont issus de vos enquêtes.
C'est notamment le cas pour Combini News, ça a été l'objet de la discussion, et ils diffuseront une partie de l'enquête en vidéo, sans monétiser le contenu, donc en enlevant toutes les publicités.
Dernière question, quels sont les grands domaines dans lesquels vous comptez lancer des enquêtes, probablement les premières ?
Alors on a 6 grandes thématiques qui sont des thématiques d'intérêt public, d'intérêt général. Ça va être les crimes environnementaux, la justice sociale, la surveillance et les libertés fondamentales, l'agro-industrie et j'en oublie une, la santé publique.
Évidemment, la santé publique. Merci beaucoup, Mathias Destal. Vous êtes donc l'un des cofondateurs de Disclose. Je rappelle qu'il y a donc un appel à fonds participatif. Comment est-ce qu'on dit ? Très précisément, ouais. Appel levée de fonds participatif.
Levée de fonds participatif.
Sur KissKissBankBank qui se termine
Le 17 décembre.
Le 17 décembre, Disclose, il y a donc un site. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce soir.
Merci de votre présence. Le temps de vous recommander un livre, Petit clin d'œil numérique. Il est signé Christine Lagorio-Shafkin, We Are the Nerds. L'ouvrage s'intéresse essentiellement à la plateforme Reddit, qui permet d'échanger des messages, un peu comme sur Facebook, mais en plus anonyme et plus secret, plus dark. Fondé en 2005, Reddit a été racheté par le groupe Condé Nast, qui édite par ailleurs GQ, Vogue, etc. On n'y like pas sur Reddit les contenus que l'on aime, on ne les retweet pas non plus, on les subreddit. Hélas, la plateforme est devenue un archipel des trolls, des fake news, de la pornographie juvénile, des menaces de viol, l'homme est à l'état sauvage sur Reddit, sans surmoi, sans limite. Le livre raconte cette saison en enfer et We Are the Nerds aurait très bien pu être intitulé, comme le faisait remarquer le New York Times, We Are the Troll. We Are the Nerds de Christine Lagorio-Shafkin est publié chez Hachette Books en anglais, non encore traduit.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le Club de la Presse Numérique, nous parlons ce soir de Black Friday qui aura lieu ce vendredi et qui marque une nouvelle date clé dans le shopping largement popularisé en France par Amazon. Nous allons décrypter ce modèle ambigu avec vous, Elisa Brown de Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Et Nicolas Prinsen, fondateur de la start-up Gloze, bonsoir.
Bonsoir.
Alors on parle souvent dans cette émission de l'influence de la culture américaine et ce soir on en a un exemple, on s'intéresse à un phénomène qui nous vient d'outre-Atlantique, le Black Friday qui aura lieu donc ce vendredi 23 novembre. Au départ, Black Friday, ça désignait le vendredi qui suit, tout simplement, Thanksgiving, qui a lieu le jeudi. Aux États-Unis, cette journée s'est imposée comme un événement où les commerces font des promotions pour attirer les clients. Elisa Brown, un retour peut-être sur la genèse de ce Black Friday et de tous ces éléments composants, y compris dans les magasins physiques.
Donc la légende veut que le Black Friday soit né dans les années 60 du côté de Philadelphie, parce que justement, l'occasion de Thanksgiving est un grand moment, pratique aussi pour proposer des soldes. C'est un jour férié
aux États-Unis,
Qui suit Thanksgiving, et c'est aussi juste avant en fait le lancement de la période des fêtes. Et en fait, cette période de soldes s'est étendue depuis une décennie environ, également au domaine de l'e-commerce. Et ça, c'est un moment aussi où les entreprises réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires. À titre d'exemple, Amazon sur le dernier trimestre entre Black Friday et les fêtes de Noël a réalisé l'an dernier 65 milliards de chiffre d'affaires. C'est 40% de plus qu'au trimestre précédent. C'est vraiment une étape en fait charnière, Black Friday, dans l'e-commerce.
Comment ça arrive, Black Friday, Elisa, en France?
Alors c'est vrai que depuis une dizaine d'années, comme vous le disiez, l'événement Black Friday a été importé notamment par Amazon en fait. Maintenant, il faut savoir que même si les Français connaissent de plus en plus cet événement, le pic de consommation survient vraiment avant la période des fêtes, une semaine en fait avant Noël. Et du coup, je dirais que même s'il y a une connaissance de cet événement, c'est pas non plus le moment où les Français dépensent le plus.
Nicolas Prinsen, on a à travers ce Black Friday, ça témoigne du poids, on pourrait presque dire de la puissance qui n'a pas de limite d'Amazon.
Oui, c'est-à-dire qu'avec Amazon, on assiste à l'internationalisation de deux choses. C'est le rythme du commerce américain, d'une part.
C'est un petit peu
au commerce ce que Halloween est à la culture, c'est-à-dire une importation américaine qui a vocation à faire consommer dans un calendrier américain. Deuxièmement, en effet, l'internationalisation du e-commerce avec un acteur comme Amazon qui imprime partout une patte extrêmement agressive et dynamique, qui plaît énormément, notamment aux États-Unis, mais maintenant en Europe de l'Ouest, face aussi de l'autre côté du monde, on en a d'autres dont on parlera sans doute, qui font la même chose en Chine avec leur propre calendrier, et en Europe on est un petit peu au milieu de ces deux phénomènes. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque année, et cette année ne dérogera pas à la règle, on entend parler des records incroyables de ventes la journée du Black Friday, qui est un petit peu le summum, le point calendaire de référence du e-commerce occidental en tout cas, et en effet on peut s'attendre à un chiffre supérieur à 6 ou 7 milliards de dollars en une journée pour un acteur du numérique. C'est en soi énorme pour un acteur du numérique, mais pour n'importe quel acteur du commerce. Et je suis notamment attentif au fait que on voit que dans leur stratégie, toutes les autres enseignes, qu'elles soient numériques ou physiques, sont en quelque sorte obligées de s'aligner. Je ne sais pas si vous êtes allé faire du shopping récemment, mais moi, plusieurs fois, on m'a parlé du Black Friday qui allait arriver dans des enseignes qui n'ont aucune empreinte numérique, mais qui sont totalement alignés sur le calendrier d'Amazon.
Ça, la question qui se pose aussi, c'est donc jusqu'où la puissance d'Amazon et qu'est-ce qui peut la freiner, notamment aux États-Unis en termes de régulation.
Amazon est aujourd'hui un acteur, sans doute l'acteur le plus puissant de l'univers des technologies, je pense plus que Facebook, plus que Google, ça peut s'argumenter. D'une part parce que les revenus sont extraordinaires, mais d'autre part parce que ça va au-delà du numérique. D'une part, il y a une puissance numérique extrêmement forte, notamment dans le cloud, dont on pourra parler, mais il y a aussi toute une puissance logistique qui est derrière. C'est-à-dire qu'Amazon, c'est pas juste un site internet, il faut imaginer derrière du transport, du stockage, et à tous les niveaux, le top de la performance mondiale. C'est-à-dire que les centres de stockage d'Amazon sont les plus sophistiqués, ils sont notamment dominés par la robotique, où Amazon innove plus que n'importe qui au monde, sauf sans doute quelques concurrents chinois. Et puis c'est aussi une force technologique majeure. Je pense que le poids notamment d'Amazon dans le cloud le met non seulement avec Amazon Web Services, qui est le service de cloud, d'hébergement dans le cloud d'Amazon.
Le plus puissant jusqu'à Netflix ou même la NSA, qui sont obligés d'utiliser ce...
Absolument. Les met, si vous voulez, au cœur non seulement de la vie des citoyens, des consommateurs que nous sommes, mais de la vie des gouvernements et des entreprises.
Pour en revenir au Black Friday, notamment dans ses aspects un peu français, Elisa Brown, Black Friday vient se nicher, si on peut dire, à travers tout un tas d'autres offres, des soldes en France qui sont déjà nombreuses, les ventes privées, etc. Avec d'ailleurs une sorte, s'inscrit dans un cadre d'opération commerciale de déstockage qui est très réglementé par ailleurs en France. Comment vous voyez les différents exemples, en l'occurrence du Black Friday, à travers, par rapport aux soldes, par rapport aux ventes privées?
Mais c'est vrai que les Français ne manquent pas d'occasions en fait pour dépenser. Les temps français en termes de consommation sont plutôt marqués par les soldes d'été, les soldes d'hiver. Et puis on a vu aussi se développer ces dernières années le phénomène des ventes privées. Et puis chaque site organise aussi ses propres journées exceptionnelles. Et dès lors, le Black Friday peine un peu à s'imposer dans ce paysage.
Quand on regarde les recherches Google, par exemple en France, sur le Black Friday, on constate, alors c'est un des rares chiffres qu'on a, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe de manière très sourcée, elle ne cesse de doubler d'une année sur l'autre dans l'Hexagone. Ça montre l'intérêt, en tout cas, au moins à travers la recherche du mot Black Friday en France. Parlons de la Chine, qui a son Black Friday à sa façon. Nicolas Prinsen, et je pense notamment à ce qu'on appelle le 11-11, hein, la fête des célibataires en Chine, qui a été créée par le fondateur d'Alibaba, le site chinois de e-commerce. Et là, on voit d'une part ce consommateur chinois, presque, je reprendrai le titre célèbre d'un livre, qui s'éveille.
Absolument. Pour vous donner une idée de la comparaison entre Amazon et Alibaba, la journée de plus forte vente de l'histoire d'Amazon, c'était le Cyber Monday de 2017, qui est une autre date, et ça a dépassé les 6 milliards de dollars de revenus. La plus grande date pour Alibaba, quasi exclusivement sur le continent chinois, c'est cette année près de 30 milliards de dollars. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même
dans les 85 premières secondes, on a dépassé le milliard de chiffre d'affaires.
Absolument.
En une heure, on a dépassé 10 milliards. Donc
c'est quasi exclusivement en Chine. Et ce qui est vraiment remarquable dans cette donnée, c'est que si vous ramenez ça au nombre de Chinois qu'il y a en Chine, on parle d'à peu près 22 dollars par Chinois. C'est comme si chaque personne en Chine, vous savez, il y en a 1,5 milliard, avait acheté un bien à 20 euros, en gros. Comparer ça à Amazon, la plus grande performance qu'ils aient eue, au prorata de ce que je viens de dire, c'est 12 dollars par Américain le jour de la plus forte vente. Et je crois que c'est un phénomène extrêmement intéressant à observer parce que on assiste à la naissance vraiment du consommateur chinois qui dépasse le consommateur américain. Et ça, je crois que c'est absolument nouveau et totalement révolutionnaire.
Elisa.
D'ailleurs, si je peux compléter, du coup, c'est vrai que depuis 2014, on observe que les ventes lors du Single Day sont supérieures aux ventes qu'on peut observer côté États-Unis avec le Black Friday et aussi le Cyber Monday que tu mentionnais, qui est donc le lundi 26 novembre, juste après ce gros week-end de ventes du Black Friday.
Quelle est la recette, Elisa, du succès au fond d'Alibaba ?
Alors Alibaba, c'est vrai qu'il y a quand même un phénomène logistique à observer hein, dans le succès de ce Single Day, c'est que Alibaba communique beaucoup en amont de l'événement sur les produits qui vont être soldés. Ce qui fait qu'on a déjà des pré-réservations énormes, ce qui explique en partie que dès les premières secondes, on ait 1 milliard de dépenses enregistrées. Et au-delà de ça, la recette du succès d'Alibaba, et d'ailleurs c'est aussi l'un des objets du Single Day, c'est de faire la démonstration de sa puissance technologique. Parce que au pic de consommation de ce Single Day, on enregistre parfois jusqu'à 320 000 demandes par seconde. Et ça montre bien en fait la robustesse des serveurs d'Alibaba, qui est un acteur du cloud également.
Là, on a aussi comparaison possible avec Amazon et Nicolas
Prinsen. Oui, moi, je trouve que les deux ont exactement le même profil aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des plateformes qui sont développées à un tel niveau de sophistication et de puissance technologique et commerciale qu'ils deviennent des acteurs incontournables du secteur technologique parce qu'ils ont poussé plus loin que quiconque la performance de leur outil, notamment dans le stockage. Mais je trouve intéressant de rappeler que l'historique des deux est radicalement différent. On a affaire à deux entreprises qui ont adopté des modèles totalement opposés. En vérité, Amazon, à la base, c'est une société qui fait du e-commerce de manière classique.
Des livres au début.
Absolument. Ouais. C'était on stocke des livres quelque part, on envoie les livres par la poste au client final. Alibaba n'a pas de stockage. Alibaba n'a
c'est
pas
un
de
intermédiaire.
Bien. C'est un intermédiaire. Ouais. C'est ce qu'on appelle une marketplace, c'est-à-dire quelqu'un qui va
une
simplement.
Une marque blanche presque, bien que pas blanche en l'occurrence.
Tout à fait. Mais quand vous allez sur le site, d'ailleurs, parfois c'est un petit peu ambigu, mais Alibaba va plutôt fournir la possibilité à n'importe quel PME en l'occurrence en Chine, d'avoir un store, un magasin en ligne et de le publier sur Alibaba. Ce qui veut dire que, les deux modèles ont évolué, c'est-à-dire que Amazon est devenu une marketplace, des acteurs tiers des PME peuvent distribuer sur Amazon, et Alibaba a ouvert aussi des magasins de marque pour offrir une expérience un petit peu plus premium. Mais à l'origine, culturellement, ce sont deux entreprises très différentes. C'est pour ça qu'Amazon a toujours le réflexe avec Jeff Bezos de vouloir intégrer la chaîne de la valeur, c'est-à-dire d'avoir toutes les briques, y compris la brique logistique, qui est le prochain lieu de conquête d'Amazon, puisqu'ils veulent s'affranchir des tarifs,
des distributeurs,
notamment.
Oui.
Voilà, absolument.
De la Poste en France, mais aussi de FedEx ou de ouais. UPS, etc.
Alors ouais. que l'extraordinaire Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, ne cesse d'expliquer qu'il ne veut pas rentrer dans tout ça, qu'il mise sur une logique d'écosystème et que son principal focus, c'est d'éveiller la puissance de la PME chinoise pour qu'elle puisse distribuer dans le monde entier.
Elisa.
Après, c'est vrai que cette ambition, elle se retrouve quelque peu heurtée par différentes tensions au niveau géopolitique. Hein. La politique de Donald Trump, notamment à l'égard de la Chine, est un véritable frein pour l'expansion internationale d'Alibaba. D'ailleurs, l'entreprise a perdu 30% de sa valorisation boursière depuis juin dernier parce que, justement, les tarifs imposés par Donald Trump aux frontières nuisent à son modèle.
Nicolas, sur ça.
Je pense aussi qu'en vérité, une partie du futur proche du e-commerce va être dictée par un homme, qui est le président des États-Unis, Donald Trump, puisqu'il est vraiment à la pointe, disons, de la lutte contre la globalisation du e-commerce.
Oui.
Absolument, et donc il veut ériger des barrières douanières avec la Chine, parce que je pense qu'il a compris, et il suffit d'aller sur Alibaba
pour voir.
C'est
les deux grands acteurs, finalement.
Oui, ouais, et puis qu'Alibaba peut distribuer aux États-Unis des produits vraiment moins chers, et pas seulement des produits B2C de consommateurs, mais des produits de construction, si vous allez sur Alibaba, vous avez des machines-outils, vous avez des trucs pour les PME, d'une part. Et d'autre part, aux États-Unis, on voit qu'il y a un gros point de tension entre Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et Donald Trump, qui ne cesse de s'envoyer des pics sur Twitter. Récemment, il y a une caricature de Jeff Bezos qui se moquait ouvertement de Donald Trump.
Lequel lui répond dans son journal, le Washington Post, comme ça, tout est bien.
Tout est intégré.
Voilà.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump est au plein milieu de cette dynamique. Et je sais que Jeff Bezos, d'après ce que je lis, craint beaucoup ce qui peut arriver, puisque la seule limite d'Amazon, c'est le gouvernement américain, finalement, qui pourrait vouloir limiter ou séparer ou diviser cette entreprise vraiment gigantesque.
Elisa Brown.
C'est vrai qu'il y a des tensions qui se ressentent, mais en même temps, Jeff Bezos n'est pas sans armes de contre-pouvoir. On le voit notamment autour de tout le battage médiatique qu'il y a eu autour de l'attribution des deux sièges sociaux d'Amazon récemment. Amazon a, entre guillemets, profité de la compétition autour entre les villes, en fait, pour accueillir donc ce siège social avec ses centaines de milliers d'employés. A donc profité de cela pour faire l'étalage, en fait, de sa puissance.
Absolument. Je pense qu'on a assisté ces 14 derniers mois avec cette histoire sur laquelle je pense que c'est bien de dire un mot, à un feuilleton comme il y en aura de plus en plus dans nos économies. Il y a 14 mois, Jeff Bezos annonce on va ouvrir un deuxième HQ, c'est-à-dire un second siège social,
candidaté,
quelque part aux États-Unis.
Il dit au maire et aux villes.
Il dit au maire candidaté.
Candidaté.
Pendant 14 mois, il y a eu des investissements massifs de la part de la plupart des villes pour essayer de se faire une réputation, des campagnes de presse incroyables.
Des propositions de réduction fiscale incroyables aussi.
Absolument. Et finalement, est sorti du chapeau donc deux
villes,
c'est divisé en deux. New York avec Long Island City et puis Arlington en Virginie, c'est-à-dire pas très loin du Pentagone en gros pour
et
le
et puis
pour
aussi
et de Donald Trump.
Et mais je pense que Donald
sur
Trump, je vais vous dire, je pense que Donald Trump a été furieux tout simplement parce que je pense que le peuple américain, pour une partie en tout cas le peuple rouge américain,
s'attendait à ce que ce soit une petite ville de l'Oklahoma
du Midwest et là on opte pour les côtes, encore une fois, qui en termes d'emploi n'ont pas forcément
plus,
besoin.
Ouais.
Donc je pense que Donald Trump n'est pas ravi de cette décision qu'a prise
un dernier mot sur le Black Friday pour conclure cette séquence, le club de la presse numérique avec vous, Elisa Brown du Figaro, et Nicolas Prinsen, fondateur de la start-up Gloz. C'est une forme d'américanisation quand même, Black Friday qui arrive comme ça. Ça montre le pouvoir. Vous citiez Halloween, très bon exemple. C'est un peu pareil, même si c'est des secteurs différents. Les États-Unis qui marquent, qui montrent la voie, et sans doute la France suit à son corps défendant.
Je pense que le numérique, bien souvent, peut-être trop souvent, est un soft power des États-Unis. Donc, en l'occurrence, le Cyber Monday, le Black Friday y participent. Mais la question se pose de manière nouvelle de cette dernière décennie. Est-ce qu'il y aura un soft power chinois qui déterminera le futur du e-commerce, notamment en France? Ou est-ce qu'il y aura un acteur français et européen qui s'imposera face à ces géants?
Sur cette note, on termine cette chronique. Merci infiniment à tous les deux. On en reste là pour ce soir. Elsa Brandt du Figaro, Nicolas Prinsen de Gloz. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone Soft Power. On fait des grands signes. C'est Zoé Sfez qui est de l'autre côté de la cabine ce soir. Dimanche prochain, nous nous intéresserons à Facebook, que nous décrypterons, en tout cas on essaiera, sous toutes les coutures à 340 degrés. 360 degrés, voilà. On regardera tous les aspects de Facebook. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. Je conclue sans Zoé Sfez. Je suis perdu, je suis abandonné ce soir. Il est 20h28. En attendant, dimanche prochain, en attendant l'émission qui arrive de Vincent Charpentier, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.